Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, j'ai à vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Corentin. Vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire, une info du jour, un incendie dans la rue de Saint-Malo. Et ensuite, une interview pour annoncer le prochain café de l'espace des sciences sur la consommation de sucre. Et on écoutera aussi une nouveauté musicale sélectionnée par Yann. Bienvenue dans l'Arène. L'info du jour aujourd'hui, c'est un incendie qui s'est déroulé dans la nuit du 5 au 6 février à Rennes. Situé rue de Saint-Malo, c'est le bar à chicha, la Villa 35, qui en a été victime. Après que l'établissement ait été ouvert toute la soirée, l'incendie se serait déclenché après la fermeture, depuis l'arrière du comptoir. L'entièreté du bâtiment, dont seul le troisième étage était habité, a été touchée par les flammes. Un important dispositif de secours a été mis en place avec 65 pompiers des casernes de Beauregard et Rennes-Centre, ainsi que 18 engins et des drones équipés de caméras thermiques. Le feu a été maîtrisé et ne s'est pas propagé aux immeubles voisins. 17 personnes ont dû être évacuées durant l'intervention et deux d'entre elles ont été relogées par les services de la ville. Le bar au rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que les trois étages ont été grandement endommagés par le sinistre. Une enquête de police est en cours pour déterminer la source de l'incendie, même si la piste de l'accident semble pour le moment privilégiée. Cet événement arrive quasiment 30 ans jour pour jour après l'incendie du Parlement de Bretagne de Rennes, qui avait été ravagé par les flammes dans la nuit du 4 au 5 février 1994, suite à une manifestation de marins-pêcheurs durant laquelle de nombreux affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre avaient eu lieu. Voilà pour l'info du jour. Et maintenant, place à une interview pour parler de notre consommation de sucre et annoncer le prochain café de l'espace des sciences.
Le sucre entre plaisir et ravage, c'est l'intitulé de la conférence organisée par l'Espace des Sciences au Café des Champs Libres, mercredi 7 février à 18h30. Une conférence qui sera animée par mes deux interlocuteurs du jour, David Valdaillet, directeur de recherche en neurosciences comportementales et nutrition, et Emeline Roux, maître de conférence en biochimie alimentaire à l'Université de Rennes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Les cafés de l'espace des sciences, ce sont des rencontres qui permettent de renforcer le dialogue entre science et société, mêlant sujets scientifiques et sujets d'actualité. Emeline et David, vous allez animer la prochaine rencontre de ce mercredi 7 février, dont la thématique sera notre rapport à la consommation de sucre. En quoi c'est un sujet d'actualité ?
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes passés à 1 kg de consommation de sucre par an, par personne, dans les années 1800, à 35 kg. Par an, ce qui équivaut à peu près à 100 grammes par jour, alors que les recommandations nutritionnelles sont à 50 grammes maximum par jour par adulte. Donc on a un vrai problème de société avec le sucre, de surconsommation de sucre, en tout cas de sucre rapide. Il faudra qu'on définisse ce qu'est un sucre. Et du coup, il faudrait présenter un peu ce que sont les sucres, que les gens soient un petit peu plus avertis pour faire un peu plus attention à cette surconsommation.
Du coup, la conférence commencera par définir qu'un sucre ou...
Il faut déjà qu'on s'entende effectivement ce que l'on entend par sucre, parce que les sucres, ce sont des molécules, c'est un ensemble de molécules extrêmement variées. Il faut savoir qu'on a besoin de sucre pour vivre, pour survivre. Donc le sucre est absolument indispensable à nos cellules, c'est leur carburant principal, enfin un type de sucre en tout cas. Mais en même temps, beaucoup de gens conçoivent par sucre les glucides qu'on absorbe aussi sous forme plus complexe. Donc il faut vraiment être clair dans ce que l'on entend par sucre. Et là, ici, quand on parle de ravage, de danger du sucre, c'est plus... les sucres rapides, rapidement absorbables, souvent très raffinés, que l'on va consommer et souvent ajouter à des aliments, parfois inconsciemment, parce que c'est rentre dans les formules de beaucoup d'aliments transformés. C'est ce sucre-là qui est dangereux.
Essentiellement, dans les produits transformés, du coup, c'est pas forcément que les gens se sont mis à manger plus sucré, mais plutôt que les produits transformés sont sucrés et qu'on le sent pas forcément, c'est ça ?
C'est un ensemble des deux, je pense, notamment tout ce qui va être boisson sucrée, donc un soda, des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de boire de l'eau régulièrement et qui boivent des sodas, ou même des jus de fruits. Les jus de fruits, c'est aussi sucré qu'un soda, en fait. Donc on en absorbe. Là, on est plutôt conscient, effectivement, qu'on en absorbe. Après, effectivement, dans un plat cuisiné pourtant salé, on va aussi ajouter du sucre parce que c'est un bon exhausteur de goût. Ça va donner envie, enfin une appétence pour le plat. Par exemple, le ketchup, typiquement, c'est très salé, très sucré, pardon. Il y a plein d'autres exemples de plats pour lesquels on ne sent même pas forcément le sucre, mais il est présent pour faciliter la consommation, l'envie de manger.
Du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'explosion de cette consommation de sucre entre 1800 et aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, Emeline ?
Mais je pense qu'une grande partie de l'explosion de sucre dans la nutrition est liée à l'industrialisation de l'alimentation, à l'augmentation dramatique de ces produits transformés, dans les formules desquelles les industriels rajoutent beaucoup de facteurs, comme l'a rappelé Emeline, dont le sucre, les sucres ajoutés, hein, parfois cachés, qui jouent un rôle dans l'appétence, dans la palatabilité. La palatabilité, c'est le plaisir qu'on va ressentir à consommer tel ou tel aliment d'un point de vue sensoriel. Et on sait que le sucre, qu'il soit perçu de façon consciente ou inconsciente, va stimuler du plaisir, créer du plaisir dans le cerveau. Donc, rajouter du sucre de façon parfois cachée dans les aliments transformés est une manière d'augmenter sa consommation et sa décision d'achat, en fait.
Il faut dire aussi que le sucre n'était pas aussi accessible dans les années 1800. On avait surtout du sucre de canne qui venait de loin. Donc, on en avait moins et il était certainement beaucoup plus cher pour la population. Donc, petit à petit, on a développé le sucre de betterave, l'accessibilité à ce sucre. On a industrialisé le process et on a facilité l'accès à un sucre qui est devenu de moins en moins cher et donc beaucoup plus facile à introduire dans les aliments.
Donc, si c'est peu cher et très appétant, très motivant dans la prise de décision d'achat ou de consommation, c'est un peu le combo gagnant pour les industriels, en tout cas pour la vente d'aliments, et le combo perdant pour, en termes de santé, de métabolisme, pour les consommateurs.
Et qu'est-ce qui explique que le sucre ait cet effet-là sur le cerveau ? Est-ce que c'est quelque chose de biologique propre à l'humain, ou alors c'est plutôt lié à l'évolution de l'alimentation ?
Comme on l'a vu en introduction, le sucre, il est indispensable à notre survie. Les cellules ont besoin de sucre pour fonctionner, que ce soit nos cellules musculaires, nos cellules cérébrales. Sans sucre, on mourrait très rapidement. D'ailleurs, une hypoglycémie, si elle est prolongée plusieurs heures, on risque un malaise et au-delà, on risque la mort. Donc le sucre, il est indispensable à la survie, ce qui a générer des mécanismes adaptatifs tout au long de l'évolution des espèces pour que les animaux soient, et même les plantes consomment du sucre, que les animaux aillent vers des aliments qui sont plutôt riches en sucre, ce qui va leur apporter leur carburant de base. Donc il est évident, par exemple, que dans la nature, on est très attiré, les mammifères sont très attirés par le goût sucré, parce que généralement c'est associé à une densité calorique plus importante, un apport d'énergie immédiat, donc pour la survie c'est quand même un facteur très positif. Donc, et même tout petit, il y a des études qui ont été menées en comportement, en psychologie, chez les nouveau-nés, que ce soit des nouveau-nés humains ou des nouveau-nés mammifères, qui montrent que dès la naissance, on est spontanément attiré par le goût sucré. Si on leur propose une petite pipette au niveau de la langue avec une saveur sucrée, eh bien, les nouveau-nés, que ce soit des chimpanzés, des humains, des ratons, des souriceaux, ils vont avoir un réflexe très stéréotypé de succion de la pipette. Au contraire, si vous mettez de l'amer, comme de la quinine, eh bien, on va avoir un rejet de cette solution. Donc tout petit, même avant la première confrontation avec un aliment au niveau de la bouche, on est attiré par le goût sucré. C'est un mécanisme adaptatif.
Quelles peuvent être les conséquences d'un abus de sucre, du coup, parce qu'on a parlé du fait que notre consommation avait augmenté, mais du coup, qu'est-ce que ça cause concrètement, quoi ?
Ben, on voit concrètement une explosion du nombre de diabétiques. On voit également l'augmentation de l'obésité. En plus, à côté de cette surconsommation de sucre, on observe aussi une sédentarité de plus en plus prégnante dans la population. Donc tout ça, ça aboutit à des maladies, maladies cardiovasculaires. Tout type de maladie, finalement, ça s'incrémente un peu tout ça ensemble.
Et au niveau cérébral, là, je prends ma casquette de neuroscientifique, le sucre, comme on l'a dit tout à l'heure, va déclencher du plaisir. Au niveau du cerveau, c'est adaptatif, c'est normal. Par contre, quand ce sucre est consommé de manière répétée, chronique, en quantité au-dessus de ce qui devrait être normal, le cerveau, finalement, va s'adapter à cette consommation de sucre, être moins réceptif au plaisir que le sucre déclenche dans le cerveau, et progressivement, par habituation, va devenir de moins en moins réceptif, et donc va nécessairement avoir besoin de consommer davantage pour obtenir cette même dose de plaisir. Donc ce que l'on observe lorsqu'on expose, que ce soit des animaux ou des humains, à des consommations répétées, chroniques, d'aliments très sucrés, c'est une adaptation, une sorte de plasticité au niveau cérébral qui se met en place, mais qui n'est pas pour le bien de l'individu, parce que progressivement, cette plasticité va faire qu'on va avoir envie de consommer de plus en plus de ce sucre pour aboutir à ce niveau attendu, espéré de plaisir, ce qu'on appelle la réponse hédonique.
Dans le cerveau, c'est la même chose du coup que pour l'alcool ou la cigarette, il y a une accoutumance et ensuite du coup besoin d'en prendre plus pour ressentir le plaisir.
Les mécanismes qui jouent un rôle dans la consommation exacerbée, voire pathologique de sucre, sont exactement les mêmes que ceux qui entrent dans la consommation pathologique d'alcool, de drogue, etc. Ou même de pathologies addictives comportementales, hein, comme l'addiction au jeu ou au sexe, ou au sport d'endurance, par exemple. Hein, les marathoniens sont addicts aux endorphines, à l'adrénaline que cela va déclencher dans le cerveau. Donc ce qui a été montré, c'est que cette consommation exacerbée de sucre chronique va déclencher des anomalies cérébrales dans le circuit de la récompense, donc ces zones du cerveau qui sont impliquées dans le plaisir, mais aussi dans des zones du cerveau impliquées dans la prise de décision, le contrôle cognitif de l'alimentation. Et ces anomalies vont faire en sorte que les décisions alimentaires, les choix que nous allons faire au jour le jour, vont être, je dirais, modifiés en faveur d'une consommation de ces aliments transformés et très sucrés. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui se met en place. La consommation exacerbée va modifier des choses dans le circuit de la récompense, dans le circuit de la prise de décision, et en retour, ces modifications, ces anomalies vont favoriser encore la prise de poids, la consommation exacerbée et in fine vont se rajouter aux effets métaboliques qu'évoquait Emeline, des effets psychocomportementaux qui peuvent conduire à des effets addiction par exemple.
On l'a dit, demain vous présentez une conférence sur ce sujet au Café des Champs Libres. Est-ce que vous savez quelles vont être les différentes thématiques qui vont être abordées ?
Alors on ne nous l'a pas forcément présenté comme une conférence mais plutôt comme une discussion ouverte. Okay. Donc on ne sait pas du tout comment va être orientée la discussion.
Vous n'allez pas du tout avoir de phase où vous allez présenter quelque chose, non, ce sera directement des questions.
Oui, un débat, une sorte d'échange libre avec les personnes qui sont présentes, donc ça peut partir dans différentes directions en fonction des questions qui seront posées, des problématiques abordées par les différents spectateurs ou en tout cas interlocuteurs qu'on aura en face de nous.
Ça va être un peu la surprise, il peut y avoir des questions j'imagine, pas facile. Mm. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de s'alimenter sans manger trop de sucre ?
Oui, bien sûr. Alors après, la meilleure chose à faire peut-être, c'est de cuisiner soi-même. Le fait de cuisiner soi-même, on sait ce qu'on ajoute. Donc on voit typiquement quelle quantité de sucre on met lorsqu'on fait un gâteau, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on va acheter cet aliment tout préparé. Et puis on n'a pas besoin, on a dit que le sucre, effectivement, le glucose est notre carburant principal. On a besoin de carburant pour survivre, donc on a besoin de glucose, mais ce glucose, on n'a pas besoin qu'il soit apporté sous forme de saccharose, de sucre de table. On en a plein, par exemple, dans les céréales. Donc vous mangez des pâtes, vous prenez une très grosse dose de glucides. Et donc on n'a pas besoin de ce goût très sucré ajouté directement. Donc il y a tout à fait moyen de se faire soi-même son alimentation équilibrée et sans ajouter de sucre raffiné, tout en ayant le carburant nécessaire pour tout notre métabolisme.
Et notre corps, même quand il n'a pas de glucides immédiatement disponibles, est tout à fait capable de créer ses propres substes, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'à partir d'un autre substrat métabolique, des lipides par exemple, on peut même détruire le muscle pour créer du carburant énergétique, le corps est tout à fait capable de s'adapter au fait qu'il n'y ait pas de sucre directement dans son alimentation pour le créer lui-même, créer son propre carburant.
Vous y allez avec quel objectif ? Pourquoi vous allez participer à ça ? Est-ce que vous avez un objectif de faire changer les habitudes, de sensibiliser ?
Oui, je pense de sensibiliser, notamment sur tous ces problèmes d'accoutumance. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre à aimer le sucre. Comme le disait David, c'est inné. C'est contrairement à l'amertume qui était plutôt signe de plantes éventuellement toxiques et où du coup on avait une aversion naturelle pour l'amertume. Le sucre c'est inné, on va tout de suite aimer ça, on va tout de suite voir le sourire effectivement sur le nourrisson. On n'a pas besoin d'apprendre à aimer le sucre et malheureusement notamment tous les produits à destination des enfants sont très sucrés. Donc je pense à ce que des gens appellent des céréales pour petit déjeuner, c'est des bombes à sucre, voilà. Donc on ne va pas citer de marque, mais on n'a pas du tout besoin de cette alimentation et c'est une histoire d'éducation alimentaire, d'habitude à donner aux gens, parce que moins on sera habitué à manger sucré, moins on aura envie de manger sucré et plus vite on aura cette sensation de récompense et on sera content avec le peu de sucre finalement que l'on mange. Donc oui, sensibiliser, je pense, notamment pour le plus jeune âge.
Cette soirée sera peut-être aussi l'occasion de déconstruire certaines idées reçues. Hein. On n'en a pas tous le même niveau de connaissances en termes de nutrition, d'alimentation. Donc, une grande partie de la population générale a des idées préconçues et fausses sur la nutrition, sur l'usage du sucre, etc. Et un message que j'aimerais aussi faire passer, c'est le fait qu'on ne doit pas oublier le plaisir. Hein. Parce que si on va chercher le sucre, c'est pour trouver du plaisir. L'idée n'est pas non plus d'être complètement restrictif, d'interdire le sucre partout, parce que il faut aussi qu'on prenne du plaisir en s'alimentant, et qu'une alimentation avec laquelle on ne trouverait pas de plaisir, c'est une alimentation qu'on ne pourrait pas garder sur le long terme. Et c'est ce qui explique pourquoi tous les régimes restrictifs sont voués à l'échec. Une grande majorité des régimes qui sont conçus, soi-disant, pour faire perdre du poids, ne sont pas efficaces sur le long terme, parce qu'ils ne apporte pas suffisamment de plaisir à la personne sur le long terme. Donc ça marche quelques mois, hein, peut-être quelques années, mais au bout d'un moment, le cerveau ne parvient pas à garder cette restriction cognitive sur l'alimentation sur un long terme. Donc il faut trouver du plaisir, mais avec modération et considération.
D'ailleurs, ça me fait penser aussi à tout ce qu'on appelle les faux sucres, qui parfois n'ont rien à voir d'un point de vue chimique avec une molécule de sucre, parfois sont un peu apparentés au sucre, et qui du coup trompent le cerveau. Donc je pense que David en parlera mieux que moi, mais je pense qu'il vaut mieux en manger moins, en diminuer par exemple la quantité de sucre qu'on met dans des gâteaux. C'est ce que je fais à titre personnel, mais éviter de remplacer par ces substituts de faux sucre, de sans sucre, qui sont un leurre pour le cerveau et qui quand même nous gardent l'habitude de manger très sucré.
Oui, il y a beaucoup d'alternatives qui existent au sucre. Hein. On pense aux édulcorants, soit de synthèse, soit naturels. Les substances comme la stevia, qui est 40 fois plus sucrée, je pense, ou même plus, 600 fois plus sucrée. Ouais. C'est l'aspartame qui est 40 fois plus sucrée, je ne sais plus.
Oui, l'aspartame, je ne sais plus.
Donc tous ces édulcorants qui vont avoir un pouvoir sucrant bien supérieur à celui du saccharose, du sucre de table. Alors, d'un point de vue métabolique, on pourrait penser qu'ils n'ont aucun effet, parce que ça n'apporte pas de calories, l'aspartame, par exemple, ou d'autres édulcorants. Cependant, le cerveau va s'habituer, effectivement, comme tu le disais, Emeline, à cette charge sucrée, ce qui peut l'amener de plus en plus vers le goût sucré, et potentiellement vers des aliments qui, eux, ne sont pas à base d'édulcorants ou estampillés zéro. Et d'autres études ont même montré qu'au niveau cérébral, le cerveau pouvait avoir des adaptations un peu étonnantes par rapport à cette consommation chronique d'édulcorants, et même des adaptations métaboliques ont été vues, hein, des réponses glycémiques, par exemple, à des édulcorants, alors même qu'il n'y a pas de charge calorique. Donc ça peut détraquer un peu la perception du sucre, des calories dans les aliments, le fait d'utiliser de façon répétée, chronique, quotidienne, ces édulcorants.
Si on veut se renseigner plus sur le sujet, évidemment, on peut venir au débat demain, le 7 février, au Café des Champs Libres. Mais il existe aussi un magazine.
Oui, le magazine Science Ouest, donc qui est le magazine de l'espace des sciences, dans lequel différents scientifiques sur différentes thématiques sont interrogés régulièrement sur des dossiers spéciaux ou des petits reportages d'une demi-page, d'une page. Donc n'hésitez pas, hein, il y a un dossier spécial consacré au sucre dans l'un des derniers numéros de Science Ouest, dans lequel vous retrouverez différentes interviews, hein, de scientifiques qui travaillent dans le domaine de la nutrition, du sucre, des comportements, la diététique en général.
Le sucre entre plaisir et ravage, c'est le prochain café de l'espace des sciences qui se déroulera au Café des Champs Libres, mercredi 7 février à 18h30. La conférence est gratuite et c'est un bon moyen d'apporter une vision scientifique à notre rapport à la consommation de sucre. Ce sera animé par David Vallaillet et Emeline Roux, qui étaient aujourd'hui avec moi. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Something moving behind the cloud, and I don't know what it is.
death. But all at once a big sewer has disappeared and something's walking down. You don't know what it feels to be alive.
Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Guess Who's Back, le groupe c'est The Big ID et c'est sorti sur le label Room Records and Idol le 12 janvier 2024. Une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, le programmateur musical de Canal B.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.